Goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le Goût du monde. Le goût préservé comme un tour de magie, un tour de passe-passe, séché au soleil, fumé, concentré, fermenté. Le gombo, les fruits, les feuilles passent de l'éphémère au durable. On me dit souvent en cuisine que rien ne se perd et tout se transforme. Et préservé, c'est un peu une autre cuisine, celle du temps que l'on capture et dont on se sert comme un ustensile. Bonjour Jennifer Hart-Smith.
Bonjour Clémence.
C'est vous la maître du temps aujourd'hui, on va dire. Vous êtes naturopathe, pâtissière, un peu magicienne, parce que oui, effectivement, vous vous jouez du temps pour conserver. Qu'est-ce que signifie pour vous ces savoir-faire de conservation?
Il faut savoir que c'est vraiment des savoir-faire ancestraux qu'on utilise depuis la nuit des temps, depuis justement avant le frigo et tout ce avec quoi on est né, en tout cas ma génération. Et pour moi, c'est surtout la redécouverte de tous ces savoirs-là, de tous ces gestes-là, qui sont d'ailleurs souvent pratiqués, justement, beaucoup plus dans certaines régions de la France, dans certains pays, de manière beaucoup plus naturelle, en fait.
C'est une conservation, en tout cas, je pense qu'on peut dire qu'elle est universelle.
Elle est complètement universelle. Je pense que vraiment, depuis que l'homme cultive, depuis que l'homme récolte, et qu'on passe pas forcément tout de suite par la case cuisine, il faut gérer l'abondance selon les saisons. On a cette profusion de légumes et de fruits qui peut arriver et justement à ce moment-là, il y a ce qu'on va consommer frais et il y a ce qu'on va garder pour l'année à venir.
Vous avez parlé de l'abondance, mais ceci c'est la culture du manque.
Oui,
c'est
tout à fait.
Pas lié au manque.
Ouais. Le garde-manger en cas de coup dur, le garde-manger pour avoir le plaisir de pouvoir goûter à certains fruits aussi dans l'hiver. Sinon, on ne mangerait que des pommes de terre dans certains
dans
coins du monde.
Régions.
Donc, tout ça, c'est un peu des tours de passe-passe pour que la cuisine reste gourmande, pour pallier à la faim aussi, hein, pour pallier aussi au manque. Tout à
vous
fait.
Êtes australienne.
Moi, je suis franco-australienne, australienne par mon père, tout à fait.
En Australie, est-ce qu'il y a justement ces méthodes et ces savoir-faire de conservation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours un petit peu tétillé au fond de...
Alors, l'Australie, c'est un pays qui est jeune. Après... Avant, bien sûr, il y a toute une culture qui est beaucoup plus ancestrale avec ces gestes-là. Par exemple, notamment dans la culture aborigène, de conserver dans la terre, parce que de toute façon, les températures sont assez élevées. Maintenant, dans la culture australienne avec laquelle j'ai grandi, moi, c'est pas si admis toutes ces pratiques-là. Voilà. Mais ça revient beaucoup depuis une vingtaine d'années, notamment la lactofermentation, même si c'est pas si facile à gérer, parce que justement, les températures élevées font que la pratique notamment de la lactofermentation n'est pas si simple.
C'est un peu compliqué. D'ailleurs, on va en parler. On est d'accord que tout au long de cette émission, nous allons parler de différentes méthodes pour conserver les aliments, en sachant qu'on va partir du principe aussi qu'on prend une maison comme s'il n'y avait pas de frigo et comme si les températures aussi pouvaient être très importantes. Donc, on va pallier un petit peu et prendre en compte tous ces ingrédients qui vont nous faire une fermentation pour trouver justement et permettre à chacun, à vous, à moi, de conserver les aliments. La place de la fermentation dans votre vie, la fermentation, la conservation en général, c'est venu comme une passion.
En fait, c'est venu il y a très exactement 6 ans. Enfin, moi, j'ai vécu aussi une année à San Francisco, qui a été aussi un peu le déclic de ma reconversion pour la pâtisserie. Et j'étais tombée sur justement des ouvrages de fermentation, notamment de lactofermentation. Et il y avait aussi Tartine Bakery, qui est vraiment la référence dans la boulangerie et la pâtisserie, qui avait aussi un restaurant où il servait énormément de fermentation. Et à partir de là, pour moi, une graine s'est plantée, entre guillemets, et puis ça a fait partie de ma vie dans une certaine mesure, mais ça a vraiment pris une énorme place avec le confinement, où il fallait justement gérer l'abondance, et aussi dans ma pratique de pâtissière et de traiteur.
On a vu un petit peu les vertus évidentes de la conservation. Est-ce qu'il y a des vertus également, on va dire, pharmaceutiques pour la santé, liées à la santé, liées au
goût ?
C'est
vrai qu'en fait, chaque mode de conservation a des avantages et des inconvénients. Quand on conserve en pot et tout ce qui va être aussi de l'ordre de la stérilisation. Donc on va tuer absolument tous les nutriments, les mauvais comme les bons aussi. Donc on va dire que là on est sur une matière où on va garder quand même un peu de couleur, un peu de goût, même si on va y perdre, mais on n'aura plus aucun nutriment, micronutriment j'entends. Et l'avantage c'est que du coup on peut conserver très longtemps. Donc, il n'y a pas de risque que ça tourne, il n'y a pas de risque que ça moisisse, mais c'est mort. C'est plus vivant au sens enzymes, oligo-éléments, minéraux, vitamines, il n'y a plus aucune vitamine. L'intérêt de la fermentation, justement, c'est que c'est une méthode qui va préserver la plupart des vitamines, voire augmenter certaines vitamines. La vitamine C, les vitamines B. Et le Captain Cook, justement, mon ancêtre australien qui a découvert l'Australie, a pu soigner une partie de son équipage qui souffrait du scorbut, qui est une maladie où on est en manque de vitamine C de manière assez criante. Et la lactofermentation, la préservation, a pu conserver, voire augmenter le taux de vitamine C, donc leur permettre de ne pas en souffrir.
Alors la lactofermentation, on en parlera évidemment, ce sera un moment important, c'est un grand pas dans la conservation des aliments. J'avais envie de parler de soleil,
oui,
de séchage. Parce que la conservation des aliments dépend aussi de notre géographie.
Bien
où
sûr,
on se situe dans le monde. Dans le nord, on va fumer davantage, alors que dans le sud, on va peut-être laisser davantage au soleil et profiter de ces températures élevées. Les avantages du séchage, est-ce qu'on peut tout sécher, par exemple?
Alors, on peut sécher énormément de choses, que ce soit notamment alors les plantes déjà beaucoup, les fruits, les légumes. On connaît bien l'utilisation des petites tomates séchées, hein, qui ont, en plus, il y a une espèce de concentration des goûts. L'intérêt du séchage, c'est qu'on va faire évaporer l'eau. On va perdre aussi en vitamines et en certains nutriments. Mais par contre, on a une concentration umami aussi des goûts et qui va être vraiment intéressante. Et surtout, on peut conserver très, très, très longtemps. Ce qui va être important dans le séchage, ça va être aussi le conditionnement. Il faut conditionner dans un bocal hermétique. Il ne faut pas que, du coup, ce qui a été séché reprenne l'humidité.
C'est ça, il faut vraiment préserver ce qui est séché, que cela reste sec à tout prix. Est-ce que, du coup, on peut jouer en fabriquant des sels avec les herbes séchées?
Bien sûr, ouais, moi je le fais énormément, notamment parce que quand on cherche en naturopathie à réduire la part de sel dans l'alimentation des personnes qu'on peut suivre, en fait, on essaye de faire des sels qui vont être intelligents, c'est-à-dire où on va mixer 50% de sel avec 50% d'une plante qui va être très riche en micronutriments. L'ortie, par exemple, est une plante extrêmement intéressante d'un point de vue silice, d'un point de vue protéines végétales, d'un point de vue minéraux. Et donc, on va mixer des sels de mer non raffinés avec 50% de plantes séchées. Ça va nous donner un sel un peu vert. Il y a la livèche aussi, qui est une plante qui est très aromatique, qu'on aime ou qu'on déteste
un petit peu.
Tout à fait. On l'aime ou on la déteste, mais par contre, elle laisse personne indifférent. Et on va utiliser ce sel comme un assaisonnement, mais comme aussi un petit booster de nutriments, quoi.
On peut aussi tromper en se disant, par exemple, faire sécher, je pense, à l'ail.
Ah oui,
ou à l'oignon,
sûr, ouais,
avec un tout petit peu de sel.
De gingembre, d'ail.
On peut saler ces plats, donner du goût.
Tout à fait.
Je vous propose justement d'aller à Dakar. Bonjour, comme l'a dit Roger Lasmoté.
Bonjour Clémence, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Cher Roger, vous avez grandi non pas à Dakar où vous habitez aujourd'hui, mais bien à Lomé, je crois, au Togo.
Oui, c'est tout à fait.
Donc, un pas dans chaque pays. Comment est-ce qu'on procède pour conserver les aliments, que ce soit au Togo, de ce que vous avez pu observer, et à Dakar, au Sénégal?
La conservation dépend du type de produit. Si c'est pour les grains, par exemple, disons le maïs au Togo, qui est l'une des principales cultures vivrières, il y a ce qu'on appelle le grenier, qui est fait avec du bambou, de la paille ou du bois. Et on essaie de conserver les grains récoltés dans ce grenier-là. Généralement, on peut aussi l'installer au-dessus de la cuisine traditionnellement, parce que quand on cuisine avec le feu de bois, il y a une certaine chaleur qui se dégage, ce qui fait qu'on veut réduire le taux d'humidité ou le taux d'eau dans le produit pour le conserver plus longtemps.
Donc bien le sécher.
La chaleur que dégage la cuisine profite en même temps, en plus du soleil qui est au-dessus. Donc, ça permet de faire sécher au soleil. Et pour les tubercules, par exemple, l'igname et le manioc, je viens d'une région au Togo qui s'appelle Palimé, où on cultive beaucoup ça. Il y a le séchage au soleil, mais il y a aussi la conservation dans le sol. C'est-à-dire l'igname ou le manioc déjà récolté est placé dans un trou dans le sol pour pouvoir le conserver plus longtemps. Ou des fois, on décide de récolter un peu plus tard. Comme ça, on garde le produit en terre un peu plus longtemps, mais on veille à ce que ça n'aille pas au-delà et pour aller jusqu'au pourrissement. Donc, on peut faire une programmation dans le temps et de la récolte. Le manioc aussi récolté, on peut le plonger dans de l'eau pour le conserver. Ça permet de le conserver un peu plus longtemps. Et la tomate, par exemple, et pour les fruits, j'ai trouvé une méthode ici au Sénégal qui est beaucoup utilisée. C'est la mangue séchée, que je ne connaissais pas au Togo avant de venir au Sénégal. Donc la mangue est séchée ça se conserve plus longtemps et c'est un produit qu'on peut manger comme ça, sans autre forme de préparation. Certains peuvent saler un peu ou sucrer, mais ça peut se manger comme ça. Et on peut transformer aussi les fruits en jus pour pouvoir les conserver plus longtemps.
Je vous pose une petite question, okay. Roger, sur les tomates. Oui. Vous m'avez dit que votre mère était revendeuse. Comment est-ce qu'elle conservait, elle, ces tomates, justement, pour en avoir suffisamment pour préparer ensuite le plat avec le riz? Racontez-nous.
Et la tomate, quand on l'achète, généralement, la plus simple des méthodes, c'est de le mettre au départ dans un panier. Mais dans le panier, ça se gâte assez vite. Et on a vu que dans les caisses en bois, ça tenait un peu plus longtemps. Au-delà, on les faisait écraser pour pouvoir les garder un peu plus longtemps. Et donc, chaque matin, il fallait passer un peu la tomate au feu pour que ça sèche un tout petit peu, parce que ça ne doit pas aussi sécher totalement, puisque après, on fait la sauce pour le riz avec. Donc, on fait un peu de cuisson de la tomate pour faire partir un peu l'eau. Comme ça, au moment où on va utiliser pour la sauce, là, on rajoute de l'eau au moment de la cuisson, de l'eau et un peu d'huile aussi. Donc, c'est cette méthode-là qui était utilisée pour conserver la tomate, qui était le principal produit pour faire la sauce qui accompagnait le riz que ma maman vendait dans le quartier de Nyekonakwe à Lomé.
Vos enfants, quand ils vous voient et quand ils vous entendent raconter ces souvenirs-là, justement, de conservation des aliments, de tomates écrasées pour pouvoir la conserver, comment est-ce qu'ils réagissent aujourd'hui?
Bon, mes enfants, quand au détour d'une ruelle de Dakar, par exemple, on voit une vendeuse qui vend ou du riz ou du pain dans lequel elle met de la sauce, et je leur raconte comment j'allais déjà acheter de la tomate au marché où la revendeuse de tomates venait à la maison, que je mettais le panier de tomates sur ma tête pour aller au marché faire écraser par le meunier. Les enfants se moquent de moi parce qu'eux, ils connaissent plutôt les bocaux ou les tomates déjà en boîte qu'on vend déjà ici, quoi, en boîte de conserve. Alors qu'à l'époque, nous, on n'avait pas ça. Et on avait, même ma mère ne préférait pas aussi. Elle préférait la tomate qu'elle écrasait elle-même pour faire son produit plutôt que de prendre de la tomate en boîte de conserve.
La viande séchée, c'est très important, la viande séchée, on la consomme souvent comme ça?
Oui, au Sénégal, la viande a une très grande importance. Déjà, la semaine prochaine, ce sera la fête de Tabaski, donc il y aura beaucoup de viande de mouton à conserver. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait des familles qui enveloppaient la viande crue, dans de la graisse animal, la graisse du même mouton. Ça permettait de conserver assez longtemps et à chaque fois, il prélevait les parties à préparer. Il y a aussi une autre méthode qui est de faire bouillir la viande jusqu'à ce que l'eau s'évapore, toujours l'évaporation de l'eau dans tous les cas. Et après, on étale et la viande pouvait se conserver, disons, entre 3 et 5 jours. Au-delà, il y a le séchage et la salaison. Jennifer, voilà, on a parlé tout à l'heure. On met du sel dans la viande et des fois après, on fait sécher pour conserver plus longtemps. Il y a la cuisson aussi, évidemment. Il y a la friture et il y a la viande braisée. Mais je ne sais pas si vous connaissez ce que les Nigériens appellent le kilechi.
Non, on vous écoute.
C'est une viande découpée en lamelles, séchée et puis grillée. Je pense que ça peut rester 3 à 6 mois, vraiment comestible.
Oui, tout à
fait.
Donc,
pour la viande, voilà, c'est à peu près ça. Le poisson aussi, c'est pareil. Ouais.
Merci infiniment, Roger, d'avoir été avec nous. Peut-être que vous vouliez parler un petit peu à Jennifer. J'ai entendu effectivement parler de ces lamelles de viande comme ça, qui sont frites, puis qui peuvent être conservées. Ça, c'est une méthode aussi qu'on peut retrouver peut-être en Afrique du Sud également.
En Australie aussi, hein. On retrouve aussi la viande de kangourou séchée comme ça. Les jerky, là, justement, les petites... c'est marrant parce que certains même les mangent comme des bonbons. C'est assez étrange parfois, mais il y a cette pratique-là, effectivement.
Dont
aussi,
on se régale.
Je peux rajouter juste un dernier point.
Bien sûr.
Jennifer a dit au début que il n'y avait pas de frigo à l'époque. Voilà. En Afrique aussi, on peut dire que peut-être autour de 80%, hein, en Afrique subsaharienne, n'ont pas accès au frigo. Mm. Mais il y a quelque chose qu'on appelait le frigo africain.
Ah, oui.
Il s'agit de deux canaries, ou pots en terre ou en argile, dont l'un est plutôt grand, l'autre est plutôt moyen. Donc, on pose le grand canari, on met un peu de sable dedans, on pose le deuxième au-dessus, et maintenant, à l'intérieur du deuxième, on peut conserver des fruits et des légumes qu'on recouvre avec un tissu mouillé. Généralement, c'est un sac de jute qu'on utilise. Et on met aussi de l'eau. Mmh. On recouvre avec un linge humide. Et je vous assure, ce procédé permet de garder les légumes et les fruits pendant 20 jours.
Et dans ce frigo africain, donc on va avoir la présence d'un peu d'eau, on va avoir un peu de fraîcheur conservée par le sable.
Et surtout préservée de la lumière, je pense aussi.
Merci beaucoup, hein, Roger, je vous souhaite une belle journée.
Merci Roger.
Oui, au revoir.
Donc on arrive à maintenir une température qui permet justement un début, Jennifer, de presque de lactofermentation, où il manque un élément fondamental qui serait le sel.
Alors on peut faire ce qu'on appelle des fermentations spontanées. Moi je le fais beaucoup sur des céréales, notamment un porridge fermenté où je prends justement une base de céréales où on a gardé dans les flocons d'avoine ou flocons de céréales la peau qui donc a tous les petites bactéries qui vont permettre la fermentation. Quand on fait une fermentation spontanée, on se donne quand même une marge d'erreur. En fait, le sel, il va venir encadrer. C'est vraiment le sel, c'est ce qui va permettre le développement des bonnes bactéries lactiques, mais c'est ce qui va empêcher la prolifération des mauvaises bactéries. Donc le sel, il est important aussi. Il va créer le milieu acide pour la lactofermentation. Donc le milieu, l'eau, la saumure va être tellement acide que les mauvaises bactéries ne vont pas proliférer. Ça va se transformer au contact des bactéries présentes dans la peau des légumes, des céréales en acide lactique. Et ensuite, ça se garde très 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 longtemps. Hein. Quand on n'ouvre pas, qu'on ne fait pas des manipulations, on peut garder des lactofermentations plus d'un an comme ça, hein, vraiment. Mais il faut effectivement garder dans un milieu qui soit frais pour pas que ça fermente en permanence. Enfin, le froid va calmer le jeu, en fait.
D'accord.
Donc c'est hyper important, effectivement, d'avoir de la fraîcheur.
On a déjà appris plein de choses, merci.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar tu culo al pasar, rebotando, y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera, comerte entera.
Que je te mange entièrement. C'est Toquignon qui chante ça sur RFI et c'est Cécile Bonici, la réalisatrice de l'émission, qui nous a trouvé cette chouette musique qui vous a fait danser, Jennifer.
Oui, c'était chouette.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. C'est le goût du monde, bien sûr. Aujourd'hui, nous fermentons, séchons, conservons, transformons le manioc en attiéké, le bissap en poudre ou en paillettes, le fromage frais en poudre également pour le réhydrater l'été et le mil en semoule. Parce que ça a aussi la base de la conservation. On fait sécher et du coup, on obtient d'une farine, on fait des petites graines qu'on peut garder très longtemps.
Tout à fait.
On a déjà pas mal voyagé. On a parlé aussi de cette viande qu'on va conserver dans la graisse, un peu à la manière du confit. Et ça, c'est une pratique qui est assez commune, dont vous avez souvent entendu parler, Jennifer Hartsmith.
Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, mais alors bizarrement pas forcément en Australie, mais beaucoup plus notamment en Aveyron, où je vais passer pas mal de temps aussi, avec justement le confinement.
Donc dans le sud de la France.
Tout, ouais, où là, il y a vraiment une pratique, effectivement... après voilà, moi je connais, enfin ma belle famille a une micro ferme, donc ils ont cette gestion très naturelle de l'abondance, donc la réalisation des conserves, le fait de faire les confits aussi,
oui,
de canard ou de volaille. Donc ça, effectivement, c'est une pratique que je connais comme ça, oui.
Et le confit est riche parce qu'on peut prélever sans manger la viande forcément, on peut préserver ou prélever un petit peu de graisse et du coup l'accompagner même,
dans les plats. Et même la cuire, ouais, l'utiliser comme base de cuisson. C'est pas forcément la plus diététique, on va dire, mais bon, au moins il n'y a pas de réaction de Maillard et elle tient des températures de cuisson assez élevées, donc on peut l'utiliser effectivement aussi. Ouais,
bien sûr. On a commencé, bien sûr, Jennifer, à parler de la fermentation. C'est un monde complètement fascinant, cette fermentation, parce qu'on part d'un principe qu'on redonne vie en fait aux éléments.
Tout à fait. Moi, je pense qu'on est vraiment aux prémices de tout ça. En fait, on a les bases ancestrales où personne n'invente rien, entre guillemets, hein, le principe de la saumure, le principe
Donc, saumure, juste pour être
La saumure, c'est une base d'eau et de sel. Après, la qualité d'eau et la qualité de sel est très importante, sont très importantes pour la réalisation d'une saumure qui va permettre la prolifération des bonnes bactéries, du vivant et la conservation. Mais là où je pense qu'il y a tout un jeu infini qui va se développer, c'est vraiment toute la partie gastronomique, parce que il y a quelque chose de pas stable en fait dans la fermentation. C'est comme c'est vivant, c'est pas statique, ça se développe. Donc entre par exemple le fait de fermenter des légumes, mais avec certains aromates précisément ou certaines plantes précisément, le fait de mélanger des légumes qu'on n'a pas l'habitude de mélanger. Ou certains fruits aussi. Mais effectivement, il y a tout un jeu expérientiel qui peut donner vie à des, je pense vraiment des saveurs absolument incroyables qu'on peut retrouver sur des tables gastronomiques. Ça, j'en suis persuadée.
Oui, complètement. Mmh. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ces mariages et ces alliances créent un nouveau goût presque. Même la fermentation en elle-même, on a l'impression qu'elle...
Il y a quelque chose de très addictif. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la fermentation, cette fameuse saumure qui devient donc un peu acide, qui devient acide même, elle peut facilement, elle est tellement riche en probiotiques, justement très intéressant sur la flore intestinale aussi. Ça peut être une base qui remplace aussi certains vinaigres, notamment dans la réalisation de vinaigrettes, d'assaisonnement. Moi, je sais que je la jette jamais. Je peux en mettre 2-3 cuillères à soupe avec, par exemple, une céréale complète. Ça va venir saler, acidifier. Ça va venir donner du goût, du gourmand aussi.
Mmh. Oui, parce que quand on parle d'acide lactique... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, quel est le phénomène qui se produit et comment est-ce qu'on fait? Si par exemple, si je veux faire aujourd'hui, déjà on parle d'un bocal stérile.
On parle d'un bocal. Alors c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre. C'est hyper important d'avoir donc les mains propres, de travailler sur une surface de travail qui soit propre. Il faut que le bocal soit en verre avec un couvercle en caoutchouc et qu'il soit effectivement stérilisé. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de mauvaises bactéries. On met toutes les chances de notre côté en faisant ça. Ensuite, on a effectivement la qualité de l'eau. On parle souvent d'une eau déchlorée. Donc, on a tiré au moins 4 heures avant, qu'on a ou fait bouillir ou pas.
Ou laisser
à l'air libre, tout à fait, pour permettre au chlore de s'évaporer. Et ensuite, on a effectivement la qualité de sel.
Non, mais nous, on a du sel qui
du
vient
sel
du Sénégal.
De mer,
du vrai sel.
Du sel rose, du sel de l'Himalaya, peu importe, mais un sel...
Un sel vivant,
qui
n'aura pas été nettoyé.
Pas trafiqué, nettoyé, chloré, justement.
L'idée, c'est d'avoir un bocal propre qui puisse se fermer hermétiquement.
Et hermétiquement, après, justement, on parlait des différentes cultures. Par exemple, au Japon, où il y a une vraie culture de la fermentation aussi... Ils utilisent beaucoup plus des bocaux en céramique. Et là, j'ai redemandé d'ailleurs à une amie céramiste que j'aime beaucoup de me faire un bocal en grès de fermentation.
Moi, je vais vous proposer de vous amener en Corée.
Oui.
Parce qu'en Corée, on fermente aussi beaucoup.
Bien sûr.
Et dans des jarres, dans des grandes jarres qui, pour le coup, sont en terre, souvent.
Ouais.
Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour Madame Pak, qui est une figure de la fermentation en Corée, et qui m'avait donc raconté en quoi ce kimchi est fondamentale dans leur vie.
Elle pense que kimchi est très bon pour la santé et elle-même, elle ne peut pas vivre sans kimchi.
C'est comme en Corée, il y a 4 saisons distinguées. Le chou, on cultive, c'est en automne. Mais pour passer l'hiver jusqu'à l'an prochain, il faut bien conserver. Et ce fameux kimchi ou les légumes, ça c'était une des méthodes pour conserver plus longtemps. Chaque région, il y a différentes sortes de kimchi. Et chaque temps, elle est différente en goût. Kimchi, c'est tout au début, on mange, c'est très frais, et deuxième, c'est un peu plus mariné, et on peut avoir mille goûts pendant la durée de conservation. C'est normalement en Corée, kimchi, c'est le plus grand projet de l'année, parce qu'on prépare un kimchi pour une année complète, pour toute la famille. Ça, c'est comme on prépare un kimchi tous ensemble, parce que sinon, c'est pas possible parce qu'on ne fait pas petite quantité de kimchi, on fait minimum 100 bottes de kimchi pour passer l'année.
Est-ce qu'on donne du kimchi aux ancêtres?
Oui, aux ancêtres qui nous ont donné la recette de chaque famille. C'est pour ça qu'il y a chaque famille qui a leur histoire de kimchi. Parce que cette famille, par exemple, celui qui met plus l'ail et qui ne met pas de jus de poisson, au celui qui met plus d'oignons ou plus de fruits dedans. Et c'est vraiment différentes sortes de fabrications.
Madame Pack est la traductrice de Madame Pack qui a gentiment traduit tous les propos. La part des invisibles.
C'est magnifique.
Elle est essentielle en Corée.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ritualisation. En France, la conservation a mauvaise presse. Parce que quand on parle de conserve, on a vraiment cette idée de conserve morte sur les rayons des grandes surfaces, sans goût, sans...
Voilà, parce qu'on a
perdu le vivant.
On a oublié.
Mais ce qu'elle décrit, c'est magique. Enfin, justement, toute cette pratique de rituel, moi, je l'ai en Aveyron quand on fait les conserves de tomates, quand on fait des confitures ou peu importe, mais où on le fait en famille, où on le fait avec, on y distille une certaine énergie, aussi une certaine joie qu'on retrouve quand on sort la conserve et qu'on l'ouvre pour la consommer. On s'en rappelle de ça.
C'est ça, quand c'est au cœur de l'hiver et qu'on a froid et que là, tout à coup, on
Bien
peut
sûr.
Ouvrir son bocal.
Oui.
C'est Luna Kyung qui me racontait également qu'en Corée, il y a beaucoup de traditions autour de la fermentation et qu'il y a comme une addiction au goût fermenté.
Oui,
qu'en fait,
il y a. Ouais,
et au-delà de l'addiction, c'est même... ils ont toujours
une appétence.
Mangé une appétence.
Appétence
et
oui,
ça transforme un peu le goût aussi et l'appréciation des goûts.
Moi, forcément, je n'ai pas le langage scientifique pour l'expliquer. Là, tout de suite, mais par contre, ça fait vraiment plusieurs années que je consomme fermenté. Je sais qu'aujourd'hui, typiquement, si... dans mon alimentation, sur plusieurs jours, ça manque, je le sens. Je le sens d'un point de vue papille. Enfin, rien que d'en parler, là, j'ai la salive qui s'active. Il y a quelque chose de très...
C'est le feu digestif qui
s'active.
Et oui,
feu digestif ou l'insalivation. Vraiment, le principe d'avoir l'eau à la bouche à l'idée de manger, effectivement, des aliments fermentés.
Pour la fermentation, on a aussi alors cette technique de lactofermentation, mais il y a également le sel. On peut frotter les aliments avec du sel et les enfermer à nouveau. C'est presque plus simple, j'ai envie de dire, plus accessible.
On va le faire notamment avec des légumes qui vont permettre de rendre une certaine quantité d'eau. Le sel est un ingrédient qui va permettre de ramollir aussi les fibres, toute la partie cellulose et fibres des légumes. On le fait notamment sur la choucroute, le sauerkraut, qu'on retrouve aussi cette fameuse choucroute crue, où on n'utilise pas de saumure, hein, notamment pour la choucroute, mais vraiment du sel.
Ça, c'est un vrai ami, le sel.
Ah, le sel est un ami, ouais, je pense qu'il a sauvé des vies et permis de conserver pendant des années, voilà, comme on disait quand il n'y avait pas de frigo. Quoi.
Il y a également des pâtes, toute la confection de pâtes, donc des légumes concentrés qu'on écrase et qu'on peut conserver.
Le miso, les pâtes, les pâtes de miso, les pâtes de piment.
Les sofritos, comme on peut voir en Espagne ou en Catalogne, on va avoir des bases à chaque fois, d'ail, ça c'est une bonne méthode.
Et concentré, très concentré aussi en goût, en umami, comme on disait justement aussi, qui sont des bases d'assaisonnement. Et c'est vrai qu'on reproche parfois à la cuisine végétale d'avoir un peu... c'est en train de changer, bien sûr, mais quand on parle de véganisme ou de végétarien, souvent, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'insipide, qu'on va avoir trois légumes coupés dans une assiette. Or, en fait, il y a tout, justement, un panel gustatif qui peut être amené par l'assaisonnement, toute la partie fermentée, toutes les poudres, toutes les pâtes dont vous parlez, qui est extrêmement gourmande, où je pense qu'on se dit même pas qu'il manque de la viande à ce moment-là.
Cependant, avec ma viande, dans mon couscous, peut-être aurais-je l'idée de mettre un petit peu de harissa.
Ah oui, magnifique. Hein,
pâte de poivrons ou piments fermentés aussi.
Et il y a là récemment Sugio, hein, que vous avez reçu du restaurant botanique, qui s'est amusé à faire la harissa, la harissa des Parisiens, avec des fruits. Donc là, il s'est amusé avec la rhubarbe, la fraise. En fait, on peut effectivement faire une pâte donc de fruits qu'on va venir pimenter avec des piments doux, coréens ou autres. Et on a cette fameuse harissa.
Parmi les techniques de préservation et de conservation encore, on a parlé du séchage, on n'a pas encore parlé du fumage.
Salaison, alors c'est vrai que moi je la pratique très peu, parce que c'est pas ma culture. Alors par exemple, je vais l'utiliser notamment plus pour amener une saveur sur des petits fromages de chèvre, ça on le fait en Aveyron, du tofu.
C'est une conservation
aussi. C'est une conservation
aussi,
le
fromage.
Notamment sur les... Oui, tout à fait.
En fait, quand on s'engage sur cette voie-là, on ne s'arrête pas.
Oui.
Elle est partout.
Tout à fait, ouais. Pour moi, il y a vraiment l'idée de conserver et l'idée de faire du goût, hein, d'amener une saveur bien précise. On parlait du sel de plante tout à l'heure. On peut très bien faire un sel fumé soi-même, hein, qui va amener justement ce côté très réconfortant, régressif, quand il fait froid, qui est très agréable aussi. Il y a un côté addictif dans la saveur fumée.
Totalement addictif. Bah, d'ailleurs, dans la harissa, il peut y avoir un petit côté fumé comme ça qui va se dégager et qui permet aussi de signer les endroits où on se trouve également sur la planète. Parce que tout le monde ne fumera pas.
Tout le monde ne fumera pas. Après, il y a effectivement le friquet, qui est vraiment cette céréale qu'on récolte avant maturation des blés. Et qu'on va venir faire griller, torréfier, alors pas fumer hein, en l'occurrence, mais c'est cette étape de...
Mais ça coupe.
Ça coupe, ça stoppe net en fait l'évolution du blé. Et donc il est vert, il a ce goût fumé et il est très 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 addictif. Bon, moi je sais qu'on le trouve beaucoup dans les épiceries justement.
Bah, tout autour de la Méditerranée en fait.
Aussi,
dans tous les pays
à
la culture de blé.
Bien sûr.
Et dont Nordine Labiane nous parle souvent. Et Karim Aïdar également, du friquet, de tout ce qui est blé et conservation du blé également, puisque c'est une étape de conservation au Liban.
Oui.
En fait, la conservation est une tradition qui porte un nom, qui s'appelle la mounée.
La mounée, vous m'aviez dit.
Et la mounée, c'est un peu l'alpha et l'oméga de comment vivre et comment se nourrir. Quand on est au Liban, Barbara Massad a travaillé de longues années sur la mounée.
La mounée représente pour moi une identité culturelle. C'est un héritage tout à fait libanais. C'est une façon de vivre à travers les saisons, avec les produits qu'on a pendant une certaine saison. Et de conserver l'abondance de cette saison dans un jar ou bien de sécher, etc. Par exemple, une tomate qu'on mange en hiver est tout à fait différente d'une tomate qu'on mange en été. Parce qu'en été, on a le soleil et la tomate est très sucrée, juteuse, bonne. C'est gardé un savoir-faire dans une bouteille. Et la mounée, c'est la même chose. C'est gardé ces tomates qui sont frais et les manger toute l'année avec la même douceur. C'est la femme qui est le boss dans ce domaine. C'était elle qui était responsable de la mounée, de garder le manger pour la famille. Elle avait même une petite clé que personne d'autre n'avait droit pour garder toutes ses réserves. La maison était construite pour pouvoir mettre des sillots dans la maison, pour pouvoir remplir ces sillots avec de la mounée, dans une pièce à la façon traditionnelle.
Ces sillots remplis de mounée, Jennifer Hart Smith.
J'étais là, j'étais dans la mounée, là, j'imaginais la pièce.
Avec des petites cavités prévues pour les jars, tout est pensé pour la mounée, dans un pays qui est géographiquement très intéressant aussi, parce qu'il est petit ce pays, mais alors il y a de la montagne, de la mer, on est au nord, au sud, des climats très différents. Si je vous demandais, Jennifer Hart Smith, à quoi ressemble votre mounée?
c'est très marrant parce qu'en fait, j'ai une mounée très, 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 très prolifique dans mon labo. En fait, il est divisé en deux espaces, une cuisine professionnelle très froide, un peu aux normes professionnelles, donc le côté inox et tout. Et après, j'ai une autre pièce qui est beaucoup plus chaleureuse avec donc un grand meuble en bois qu'un ami ébéniste m'a fait. Et alors là, il n'y a pas un centimètre où il n'y a pas un bocal, il n'y a pas une poudre, où il n'y a pas... une lactofermentation et ça m'apporte tellement de joie. Enfin, voilà, c'est riche. On a une vraie bibliothèque là. Ouais.
Et du coup, plutôt des fruits, des légumes.
De tout. Sauf de la viande. Alors, c'est vrai que je suis pas très consommatrice de viande, donc j'ai pas ça. Et puis j'ai cette idée qu'il faut faire attention. Mais en fait, c'est assez marrant parce que je pense que j'ai pu rencontrer aussi là ces derniers mois des personnes qui sont pas adeptes de la fermentation, de la conservation et qui ont des peurs. Et en fait, je me rends compte que on a aussi, notamment ma génération, voilà, entre les 30-40 ans, grandi avec le côté où on nous a amené toujours la nourriture de supermarché ou d'ailleurs. Et en fait, on doit se réapproprier aussi, dépasser ses peurs de louper, parce que comme je disais, c'est vivant, c'est pas stable. On a peur de s'intoxiquer, on a peur de... Et en fait, on réapprend tout ça. On réapprend que quand on ouvre une conserve et qu'elle sent pas bon, bah, on la mange pas. On réapprend que s'il y a une moisissure qui est bleue, bon, bah, c'est pareil. Il y a une réappropriation, ouais, voilà, de toutes ces techniques. Et il faut pas avoir peur.
Il faut se faire confiance.
Il faut se faire confiance énormément. Parce que, on a aussi dans notre cerveau, le cerveau reptilien, la partie du cerveau reptilien qui est de l'ordre de l'instinct animal. Donc, si on ouvre une conserve qu'on sent et qu'on a un geste un peu de ou répulsif, entre guillemets, bah non, on va pas y aller, on va pas manger quelque chose qui nous répugne, quoi. Donc, faut vraiment se faire confiance, ouais. Ouais,
et on donnera évidemment les références de votre site, puisque vous avez pu donner des cours avec la chef Manon Fleury et Alcidia Vidbo également, ouais, autour sûr. De comment conserver les agrumes et puis toute une série de condiments, d'huile, de vinaigre extraordinaire.
Ouais. Le goût du monde. Clémence de Navi.
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Bad Guy de Billie Eilish dans Le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur RFI avec Jennifer Hartsmith, pâtissière naturopathe. Nous séchons, fumons donc depuis le début de cette émission et fermentons. On rend vivant tout ce qui peut l'être. L'éphémère devient durable. C'est le fruit du jeu des saisons et des saveurs et des saisons cuisinées avec ce temps. On est bien avec notre Mounet également. On a peu parlé pour l'instant d'huile.
Oui, tout à fait, ouais.
Et l'huile pourtant, c'est un...
En fait, il y a des vraies précautions à prendre avec l'huile, hein, parce que, par exemple, on met pas juste des ingrédients dans l'huile, parce que, bah, notamment des fruits ou des légumes, il y a de la présence d'eau. Donc, si on met ces fruits et légumes frais ensuite dans l'huile, l'interaction huile-eau peut créer aussi un milieu qui soit propice à le développement de mauvaises bactéries, notamment, voilà, et le botulisme est une maladie qu'on traite aujourd'hui, qui existe encore un petit peu, mais bon, il faut faire attention. Il faut les chauffer, toujours chauffer les huiles. Ou alors cuisiner en amont les ingrédients, les fruits, les légumes. Mais après, ça se fait très bien. Il ne faut pas non plus, comme je disais, avoir peur. Il faut juste bien se renseigner sur toutes ces pratiques-là.
Oui, bien sûr.
Et bien appliquer ça, voilà.
Oui, y compris d'ailleurs dans les générations précédentes, quand on a toujours eu l'habitude de mettre par exemple du fromage dans l'huile, comme c'est le cas au Liban.
Tout à fait.
Ou bien des légumes, ouais, des aubergines, ouais. À partir du moment où c'est appris, conçu.
Bah, en fait, c'est vrai que dans l'idée de transmission, j'imagine qu'autrefois, c'était des choses qui étaient apprises, transmises au sein des familles. Les rites, comme elle nous l'expliquait en Corée, les rites donnent du rythme et donnent aussi de la connaissance sur toutes ces techniques-là. Nous, pour certains d'entre nous de ma génération, on doit réapprendre tout ça. Donc
on a fait un beau saut en arrière, en définitive. Quand
Oui, bien sûr. Et puis en même temps, c'est parce qu'il y a tellement de bon sens à réutiliser tout ça et qu'il y a il y a l'idée un peu qu'on nous a caché tout ça et qu'on doit donc se réapproprier, réapprendre... En mettant toutes les précautions nécessaires, bien sûr.
Ouais. Mm. Alors, on a parlé des fruits qui se gâtent et qu'on souhaite conserver. Alors, évidemment, on pense sirop et
fait.
On pense confiture.
Oui.
Et donc, nous allons rencontrer Aïssatou Faye. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Depuis le Sénégal, comme on dit, Nangendev.
Bonjour. Vous êtes à Toubab Diallo. C'est un petit village de pêcheurs qui est au sud de Dakar et fondatrice des délices de Mbiné Mangouné. Ou la maison du manguier. Vous y faites des confitures à base de fruits locaux, bio, non traités. Mais l'origine de votre aventure, c'était quoi, puisque ça s'appelle la maison du manguier?
La maison du manguier, vous savez, comme tout entrepreneur, il veut apporter une solution à un problème. Donc, moi, quand j'ai créé Mbiné Mangouné, les délices de Mbiné Mangouné, j'ai tout simplement un manguier centenaire qui est au milieu de ma cour et qui, chaque année, qui me donne de très bonnes mangues. Et comme les mangues sont très nombreuses, donc, elles arrivent à une période où elles tombent partout, il y en a partout dans le jardin. Donc, elles se gâtaient. Donc, je ne savais pas quoi en faire. J'en donnais aux voisins et une partie qui était pourrie finalement, je l'ai ramassée et je l'ai jetée tout simplement dehors. Et c'est les vaches, les chèvres qui passaient devant la maison qui en profitaient. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc je vais les transformer tout simplement, essayer de les transformer, de les mettre en boîte et de les manger autrement. Mais le problème, c'est que moi, je ne savais pas fabriquer de la confiture. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris tout simplement sur Internet. Donc, je suis autodidacte. J'ai appris à transformer la mangue, de le mettre en boîte, voilà, et de pouvoir le déguster autrement et dans d'autres périodes, et de vraiment de trouver en même temps le même goût, quoi, de la mangue.
Aïssatou, justement, vous venez de dire, comme ça, on peut l'avoir à d'autres périodes, cette mangue. Est-ce que, justement, elle se vend bien, votre confiture de mangue, quand ce n'est pas la saison de la mangue? Parce qu'il faut préciser que ce n'est pas tellement dans la culture en Afrique de manger de la confiture.
Ouais. Donc, très bonne question. Alors, faut savoir qu'au Sénégal, on a beaucoup de mangues. Donc là, c'est la période. Donc, moi, par exemple, dans mon jardin, j'en ai un pagaille. Il y a des vergers, dans les autres régions, pareil. Donc, et la mangue, elle est tellement exquise. Donc, pourquoi le transformer, rajouter de la sucre et le manger? Donc, c'est pas vraiment le produit, la confiture de mangue. Il faut savoir aussi, c'est pas un produit au Sénégal qu'on consomme. Ça fait pas partie du panier de la ménagère, comme on dit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon stock de confiture. Et donc, quand la saison passe, il y a plus de mangue, voilà, partout. Donc, là, vraiment, et la confiture de mangue. Et en faire le chakri de mangue qui est excellent aussi. Mais vous savez que même le noyau de la mangue, on en fait du beurre. Donc la peau, on peut le transformer en pectine. La chair, on la mange, soit on la mange nature, voilà, ou on le transforme en confiture. Et le noyau, on en fait tout simplement du beurre de karité. Donc rien ne se jette dans la mangue maintenant.
En Afrique, j'ai l'impression qu'on utilise vraiment tous les produits, les ingrédients au cœur de la saison et on ne jette rien.
Exactement. Et de plus en plus, on est conscient que vraiment, on a de la très bonne matière première pour les fruits et les légumes. Donc, plus le temps passe, plus les consciences se réveillent et plus qu'on se dit, il faut qu'on transforme tout ça, qu'on en fasse de beaux produits, donc qu'on laisse plus partir la mangue, tout ça là ailleurs. Donc, on essaie de transformer tout ça là sur place et vraiment, on obtient des très belles choses.
On a parlé de la mangue, mais alors il faut quand même que vous nous parliez. Vous faites de la confiture de fraises parce que oui, il y a des fraises en Afrique de l'Ouest et de la pomme cajou.
Exactement. J'en profite pour dire à toutes les personnes qui pensent que la fraise ne pousse pas au Sénégal. Si, je vous annonce une très bonne nouvelle, la fraise pousse au Sénégal. Et vraiment, en fait, la saison s'achève là. Donc, on fait de la confiture de fraises du Sénégal, mais qui est issue de nos vergers locaux, en fait, de l'agroécologie. Parce que nous aussi, la spécialité à les délices de Mbiné Mangouné, c'est que nous travaillons avec des agriculteurs locaux, mais qui sont uniquement dans l'agroécologie.
Vous faites également donc des fruits locaux que de ce côté-ci de l'hémisphère, on ne connaît pas forcément, notamment, vous m'avez parlé du tittard et de la pomme cajou. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce que c'est que cette pomme?
Alors, la pomme cajou, c'est le pédoncule charnu comestible. En fait, c'est comme un faux fruit. C'est le faux fruit de l'anacardier. Vous D'accord. connaissez tous le noix de cajou.
Oui, la noix de cajou, elle est accrochée à un fruit et c'est ce fruit-là qui fait des confitures.
Il y a une fleur, voilà, mais qui a un goût mais spécial qu'on ne peut pas trouver, par exemple, dans un autre fruit. On ne peut pas le comparer à un autre goût.
Vous êtes en train aussi de faire découvrir aux Africains, aux Sénégalais, ce plaisir de la confiture et comment les manger aussi.
Exactement. Au Sénégalais, déjà, je commence par la base, hein, par là où j'habite. Je suis dans un village de pêcheurs qui est à 50 km de Dakar. Donc, localement, j'essaie de tout faire pour leur montrer qu'on peut manger la mangue autrement, que ce soit la mangue, le corossol, le citron vert, le pamplemousse. Parce que nous, au niveau de LDMM, on a quand même un peu plus de 30 saveurs. Ça veut dire que la mangue, on le décline, par exemple, en d'autres saveurs. On mélange le fruit de la passion, on fait de la mangue gingembre, on mélange la mangue et le melon local. Donc l'idée est vraiment de floriser tous les fruits là et voilà, de les montrer autrement et de les manger en d'autres saisons avec le même goût, quoi. 100% local. C'est ça l'idée aussi.
Et c'est ça la force.
De valoriser
aussi
les fruits locaux.
Merci beaucoup, Aïssa Toufaï.
Merci beaucoup.
On donnera les coordonnées évidemment pour vous retrouver sur la page internet du Goût du Monde et sur les réseaux sociaux puisqu'on vous suivra.
Au revoir.
Jennifer Smith, est-ce que vous auriez un ingrédient et un ustensile à partager avec nous?
L'ustensile, quand même, c'est le pot engrais, quoi. Je pense que ça devrait de plus en plus, et je pense que c'est absolument merveilleux. L'idée qu'à partir du moment où on met un bouchon dessus, il se passe toute une vie, une prolifération de vie à l'intérieur. Et un ingrédient, j'aime beaucoup le sel de Nigari, qui va permettre de faire coaguler le lait de soja, le lait d'amande, le lait de chanvre aussi.
C'est un sel spécifique
qu'on va utiliser? Le sel de Nigari qu'on trouve en magasin bio, effectivement. Il y a du sel de calcium, sel de magnésium, qui vont permettre de faire coaguler, de rassembler les matières grasses ensemble, donc de faire une espèce de... le tofu, c'est un peu le même principe que d'un fromage, sauf que c'est 100% végétal. Et bien sûr, ça n'a pas le même goût, attention, je ne vais pas sur ce terrain-là.
Ce n'est pas un fromage,
voilà.
D'ailleurs.
C'est une transformation du soja qui coagule, justement, avec ces fameux sels, pour le rendre solide. Et après, il y a un goût qui est quand même assez neutre et une texture assez douce. Et après, on va venir, justement... aromatiser, assaisonner, apporter des condiments qu'on aura à conserver. Et là, il y a une recette que j'aime beaucoup, justement, c'est ce tofu soyeux dans les desserts avec un sirop de gingembre, des fruits qui ont été confits ou pochés, et en salé, de faire plutôt une espèce de casserole de tofu avec des curries, des choses comme ça. Enfin voilà, le tofu est à l'honneur. Faut pas croire qu'il est insipide et sans saveur, c'est pas vrai.
Mais de toute façon, on vous invitera pour en parler.
Avec plaisir.
Parce que je crois en plus qu'il y a une tofouterie.
Oui, tout à fait.
Non loin d'ici, ouais. De Paris. Donc, nous allons aller leur rendre visite, espère. Et du coup, on aura le plaisir de vous retrouver.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Jennifer Hartsmith. Donc, on attend en septembre, avec impatience, votre livre.
Épicerie naturelle.
Épicerie naturelle. Où vous donnerez justement, mais couché sur papier cette fois, des recettes.
Il y a une quarantaine de recettes pour faire des condiments et toute une base d'épicerie et une quarantaine de recettes pour les cuisiner.
Ça, ce sera chez Marabout en septembre, sans oublier le livre digital que vous avez publié. Donc
oui,
déjà, vous pouvez vous le procurer et donc commencer une fermentation avec les conseils
de Jennifer. Le guide estival sur comment gérer l'abondance, disponible sur mon site.
Donc en digital, on peut l'avoir tout de suite. Et bien sûr, pâtisserie naturelle et puis vapeur, deux précédents livres que vous avez publiés. On vous suit sur les réseaux sociaux et puis sur votre page web, tookies.fr, où on trouve également des conseils, des recettes, des bonnes idées. Nous vous glisserons des recettes sur la page du Goût du Monde. Quelques techniques également. Si vous avez, vous, des recettes et des histoires à partager, n'hésitez surtout pas. Les réseaux sociaux sont là pour ça, ainsi que le numéro WhatsApp de l'émission, 33 6 43 16 15 66. Merci à Cécile Benissi pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. Merci à vous d'être fidèles au poste et au podcast. Belle semaine à tous. À samedi prochain.
Tout à l'heure sur RFI.